Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs, édition du 9 septembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, la question que je te pose à chaque semaine, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Qu'est-ce qui a fait bouger les marchés?
Bien, le principal élément qui a retenu mon attention, c'est le chiffre d'emploi, autant au Canada qu'aux États-Unis en fin de semaine dernière. Là, c'est sorti vendredi, là, si ma mémoire ne me trompe pas. On s'attendait à un chiffre modeste, là, mais on a eu un chiffre très modeste finalement. Donc, 25 000 créations d'emplois aux États-Unis seulement. Le marché s'attendait à 75 000. Donc, jusque-là, ce n'est pas si pire. Au Canada, perte de 66 000 emplois. Donc, qu'est-ce qui arrive quand l'emploi ralentit à ce point? On vous rappelle que les mandats de la Banque centrale, ben, c'est de contrôler l'inflation et de stimuler l'emploi. Là, je vous résume ça facilement. L'emploi est en train de décrocher. Donc, les marchés ont rapidement réagi à la baisse au niveau des taux d'intérêt sur les obligations. On s'attend donc maintenant à ce que les banques centrales au Canada et aux États-Unis probablement vont couper les taux la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui arrive quand les taux d'intérêt baissent? Généralement, les marchés boursiers aiment ça. Fait qu'ils sont un peu comme mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. Là. Le chiffre d'emploi ralentit, c'est en principe pas une bonne nouvelle pour l'économie. Par contre, ça fait que les bourses sont en hausse cette semaine. Donc, depuis la semaine dernière, notre dernier balado, 1,4 au Canada, 1,2 sur le S&P 500, 2,4 sur le Nasdaq. L'indice Europe, Australie, Asie, 2,4 aussi. Qu'est-ce que ça donne au niveau des indices obligataires? Je trouvais intéressant. Je suis allé voir bon, l'indice XBB, là, l'indice obligataire universel au Canada, cette semaine, 1,25 en une semaine. L'indice, il y a un FNB pour les obligations fédérales long terme, là, donc des obligations du gouvernement canadien 20 ans et plus, 3% en une semaine. Donc, tu sais, c'est le rendement d'un an en une seule semaine. Ça fonctionne, le marché obligataire. Là, quand le marché rentre et il y a des bonnes nouvelles, son rôle de soupape de sécurité, ben, on le voit là, cette semaine, c'était meilleur que les actions, mais au niveau des obligations. Dollar canadien, pas tellement bougé. Moi, ça m'a un peu étonné. Là, j'aurais pensé qu'au Canada, le dollar canadien aurait baissé un petit peu plus sur cette nouvelle-là. Pas du tout. Stable à 72,5. Taux d'intérêt sur les 10 ans américains à 4,05. On était à 4,30 la semaine passée. Au Canada, on est à 4,22 environ sur les 10 ans. On était à 3,22, pardon. On était à 3,44. Donc, quand même, là, presque un quart de point de baisse en une semaine dans l'univers des obligations. Là, c'est une baisse qui est quand même très importante.
Merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre collègue Jean-René Ouellette, analyste senior et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilières Desjardins. Jean-René, tu nous as proposé une thématique intrigante pour cet épisode. Avoir su, on se serait trompé. Peux-tu nous dire ce qui t'a inspiré cette réflexion? Pourquoi elle est particulièrement pertinente dans le contexte actuel des marchés?
Hey Sarah, Martin et Martin, ben d'abord, ben bonjour à vous et à tous. En fait, généralement, on cherche à savoir ce qui s'en vient. On cherche à comprendre, on cherche à lire comment l'économie va évoluer. Mais cette année, ce qui me surprend passablement, c'est qu'on a certains événements qui ont peut-être frappé l'imaginaire. Et donc, si on avait su qu'ils allaient se produire, je vous le dis, on n'aurait probablement pas pris les bonnes décisions d'investissement. Pensez-y franchement, en toute honnêteté, si on avait su le 1er janvier qu'on allait déclencher, quand on s'excluait, que la Maison-Blanche allait déclencher une guerre commerciale envers le Canada, on se serait dit, le TSX, l'indice fort canadien, s'en va par en bas, et le dollar canadien, dans les bas 60 sous. Ça aurait été un réflexe tout à fait rationnel. Vous voulez un autre exemple? Prenez l'intervention conjointe Israël et les États-Unis sur le nucléaire iranien. Pour vrai, si on sait ça en début d'année, on fait quoi avec nos positions de pétrole? On achète, on achète, on achète, parce qu'on va se dire, le pétrole, si ça survient, ça en va à 100, 150, 200 $. Parfait. Un et deux se sont produits, et pourtant, le TSX fait des sommets, le dollar canadien a repris 5 sous depuis ses creux, le pétrole a eu de la misère à prendre 5 $ le lundi matin et suivant les événements pour les effacer dans la semaine. Mon point, c'est qu'heureusement, au début de l'année, on ne savait pas. Parce que si on avait su, j'ai probablement bien des investisseurs qui se seraient retirés des marchés, seraient en attente sur la ligne de côté et verraient les marchés engranger des gains après des gains et encore des gains. Et ça, ce serait drôlement frustrant. Alors, je dis aujourd'hui, heureusement, on ne le savait pas.
Merci. Et on entend souvent les marchés sont chers en ce moment. Est-ce que c'est une perception que tu partages? Si oui, quels indicateurs te permettent de le dire? Et sinon, qu'est-ce qui nuance cette impression?
Ça, ma question, je vais répondre oui et non. Il y a des éléments qui nous indiquent que ce marché-là est cher, mais il faut faire attention de ne pas confondre un nouveau sommet avec un élément de richesse, parce que le niveau d'un indice ne représente que que sa valeur, mais on doit toujours le regarder en fonction des bénéfices. Et quand on regarde en fonction des bénéfices, oui, les bénéfices sont peut-être un peu plus élevés, mais je suis pas capable de dire aujourd'hui que ce marché-là est à un niveau je vais appeler ça, de richesse ou d'évaluation qui est hors norme. Plus cher que ce qu'on a vu dans les dernières années, par contre, n'ont pas non plus dépourvu de fondamentaux. Les secteurs qui poussent très fort sont des secteurs où la croissance des revenus et la croissance des bénéfices est aussi au rendez-vous. Est-ce qu'il y a des poches de faiblesse où les marchés sont peut-être trop chers? Réponse, c'est oui. Il y a quand même des poches des niches dans ce marché-là où les marchés sont un peu plus abordables. Puis, comment j'aime concilier, moi, évaluation et croissance? Bien, les gens sont généralement à l'aise avec le ratio cours-bénéfice. Mais moi, j'aime ça prendre le ratio cours-bénéfice sur le taux de croissance. Donc, de pondérer un certain niveau de croissance, l'évaluation qu'on fait, parce que si on paye une compagnie 12 fois les bénéfices avec pas de croissance, ou si on paye une compagnie 25 fois les bénéfices avec pas de croissance, bien, l'une est peut-être adéquate, l'autre ne l'est pas. Pour plus de croissance, on est prêt à payer plus cher, mais quand même pas n'importe quel prix. Fait que c'est un marché qui, à mon avis, demande de la sélectivité. Puis je vais faire un rappel historique. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'un marché est cher qu'il est sur le point de casser. L'évaluation, c'est un très mauvais facteur pour prendre des décisions d'ajustement ponctuel d'investissement. Parce qu'un marché cher peut devenir toujours encore plus cher. Du momentum, quand ça s'installe, ça a un facteur qui est très durable dans le temps. Ça ne veut pas dire de courir après les nouveaux sommets, ça ne veut pas dire de forcément être hyper agressif dans son exécution. Non, mais c'est un rappel que des gens qui sont sortis trop tôt des bourses, il y a 6 mois, il y a 12 mois, il y a 18 mois, il y a 24 mois, et qui ont peut-être conservé un excédent dans la caisse, quelqu'un qui me dit, Sarah Martin, je vais peut-être, tu sais, j'hésite, peut-être que je travaille avec 3, 4, 5 % dans la caisse excédentaire, je peux vivre avec ça. Mais si quelqu'un aurait pris des mesures en encaisse drôlement plus grandes, le manque à gagner depuis 12 mois, depuis 18 mois, il coûte excessivement cher. Donc, il y a aussi un coût qui peut s'avérer très grand à se sortir des marchés trop tôt.
Ben, puis, tu sais, de ne pas gagner un rendement parce qu'on est sur les lignes de côté, c'est la même affaire que de subir la perte. T'sais, si on a peur d'une perte, puis je veux pas que mon compte baisse de 50 000, mais je suis tout en cash, puis mon compte aurait monté de 100 000. Finalement, j'ai perdu plus d'avoir essayé d'éviter une perte, juste de se fermer les yeux, serrer les dents. Généralement, ça fait le travail. En début d'année, JR, l'administration, tu sais, l'approche de Trump suscitait beaucoup d'inquiétudes. Là, on s'est fait libérer le jour de la libération. C'était comme le pire scénario, tu sais, c'était pire que le pire scénario anticipé. Comment le ton a évolué depuis ce temps-là, au niveau tant au niveau de Trump, au niveau du marché, comment le marché réagit face à ce que Trump fait?
Je pense que le marché réapprend à s'immuniser contre les discours. Puis, vous avez fait des événements de votre côté avec Raphaël Jacob. On l'a obtenu de temps en temps. On a travaillé avec celui-ci aussi. Puis, je pense que l'un des messages clés qu'il nous mentionnait, c'est qu'il disait, suivez un peu plus les politiques et suivez un peu moins la politique. C'est juste un déterminant d'écart, mais ça fait un énorme changement. Parce que la politique, elle bouge en continu. C'est un feu roulant d'effervescence et de feux d'artifice, puis de clips. Alors que les politiques, elles, sont beaucoup plus stables. Pensez-y, il a déclenché au lendemain en fait, le jour du Super Bowl, une guerre commerciale contre le Canada et le Mexique. Pourtant, 80 % de nos échanges avec les Américains demeurent couverts par l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. On est sur un compte à rebours, on achète du temps, mais on voit qu'avec le, t'sais, il ne cesse de rajouter du temps et de reporter. S'il avait voulu réellement générer des revenus mirobolants, il aurait pu appliquer le jour 1 ses tarifs directement la première journée. Ce n'est pas ce qui a été fait. Il a annoncé des grands chiffres, des grandes paroles, des grands discours, des grands tweets. Puis finalement, il n'a cessé de reporter dans le temps. Puis on va arriver avec, oui, des tarifs qui vont être essentiellement d'une taxe pour le consommateur américain, mais d'une envergure nettement moins. Puis ça a causé des défis pour nos économistes, puis pour l'ensemble des économistes sur la rue. Si vous aviez un poste d'économiste le printemps dernier, là, vous n'aviez pas le choix de dire, non, non, mais si on applique 30 % de tarifs sur tout ce qui se passe du Canada pour aller aux États-Unis, c'est sûr qu'au Canada, le scénario de base, c'est une récession. puis une récession même possible aux États-Unis. Notre économiste en chef, Jimmy Jean, avait écrit récession possible aux États-Unis, probable au Canada. Mais au fur et à mesure où on repart, on reporte, on fait une exception, deux exceptions, trois exceptions, mais on réalise que le dynamisme économique ou l'impact économique va être marginalement plus faible. Ce qu'on sent, puis Martin, tu faisais allusion tantôt au chiffre d'emploi. Nos entrepreneurs, et pour avoir fait le tour de la province, je vais vous le dire, là, les deux premiers réflexes de nos entrepreneurs face à l'incertitude, ils font deux choses. Ils gèlent les embauches, puis ils gèlent les investissements. C'est exactement ce qu'on voit comme répercussion dans l'économie à l'heure actuelle. Mais donnez-moi une entente de libre-échange, donnez-moi si on a des mesures plus grandes à payer, quelles sont-elles? Nos entrepreneurs verront ce qui marche et ce qui ne marche pas. Puis après ça, on aura une meilleure idée du dynamisme économique. Mais je pense que c'est clair pour moi aujourd'hui que les scénarios les plus négatifs ont vu leur probabilité diminuer. Je ne suis pas en train d'ouvrir la voie vers un scénario rose-bonbon. Ce n'est pas vrai. On fait face à certains défis et à certaines incertitudes. Mais au moins, ce qui a changé depuis les 6 derniers mois, on a effacé une bonne partie des probabilités des scénarios les plus négatifs. Et c'est ce qui a permis au marché de reprendre un peu d'envergure, surtout à l'aube où la Fed s'apprête à recommencer à baisser son taux directeur. Donc, le marché se positionne pour peut-être un semblant d'atterrissage en douceur. On verra ce qui va se dessiner, mais on a eu des bons résultats des compagnies. La Fed s'apprête à baisser. Tout indique qu'on devrait, du moins à court terme, éviter une récession aux États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir des fluctuations sur le marché? C'est toujours vrai, mais en même temps, on a déjà eu une bonne baisse en avril et c'est rare qu'on en voit deux baisses importantes dans la même année et c'est rare qu'on voit le marché baisser de manière très forte si on évite une récession, puis surtout dans un contexte où la Fed est déjà en cycle d'assouplissement monétaire. Je ne veux pas dire qu'on va toujours progresser en ligne droite à la même cadence que dans les deux dernières années parce qu'on a été gâtés franchement, mais avant de laisser aller le bébé avec l'eau du bain, là, prenons trois grandes respirations puis revenons à la base.
Puis dans les prochains événements ou tendances, qu'est-ce que tu surveilles de près? Y a-t-il des choses qui te gardent réveillé la nuit ou qui t'excitent puis tu as hâte de voir comment ça va évoluer?
Il y a sûrement des choses qui nous excitent et ce qu'on veut suivre. Oui, tu as parlé de la faiblesse des chiffres d'emploi tantôt, mais dans la dualité du mandat de la Fed, il faut conjuguer ça avec les chiffres d'inflation. Au Canada, l'inflation, c'est essentiellement réglé. On voit même que les nouveaux loyers demandés en Ontario ont commencé à baisser. Donc, l'inflation, même habitation au Canada, va revenir. La Banque du Canada, la porte est ouverte. Aux États-Unis, c'est là où on a des inquiétudes. On va avoir d'autres données cette semaine, mais l'inflation, elle est plus résiliente aux États-Unis. Oui, comme la Réserve fédérale américaine part d'un taux un peu plus haut, elle a une place pour baisser un peu, mais jusqu'où elle va pouvoir baisser, va falloir voir quelles sont les données au niveau de l'inflation. Autre dossier super important, la tenue des tribunaux américains. On a souvent au Canada dépeint M. Trump comme voulant faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, un peu d'une approche dictatoriale. Mais pourtant, pour l'instant, beaucoup de ses décrets sont challengés en cours. Et pour l'instant, il suit les procédures de cours. Donc, quand il n'aime pas un jugement, qu'est-ce qu'on fait? On va en appel. On peut trouver que c'est une bonne idée ou pas. On n'a pas besoin de juger. Mais pour l'instant, on est obligé de dire que l'administration américaine actuelle suit les procédures normales. Est-ce que tout va aboutir à la Cour suprême? On verra, mais ça, je pense que c'est un appel au calme quand même assez intéressant. Et n'oubliez pas, dans 2 mois, on va arriver en novembre, à Noël, laissez Noël un peu plus loin, là. En novembre, on va être donc à 1 année des élections de mi-mandat. Rappelez-vous, Trump a été élu essentiellement sur 3 problèmes des démocrates, l'inflation, l'inflation et l'inflation. Il n'y a personne qui voulait plus de conflits armés, il n'y a personne qui voulait de guerre commerciale, il n'y a personne qui voulait des déportations massives de migrants. Fait que j'ai l'impression que le ton risque de devoir changer quand on va se rapprocher à 12 mois d'une nouvelle élection de mi-mandat aux États-Unis. Donc, à très court terme, c'est ce que je veux suivre. Dynamisme économique, la Fed, les données d'inflation, puis évidemment l'administration américaine.
Bien, merci beaucoup, Jean-René, puis merci, Martin. À nos clients et partenaires, si vous avez des questions sur les sujets abordés aujourd'hui ou sur vos objectifs financiers, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour vous accompagner. Merci pour votre écoute cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.